Alléluia, nous sommes dans la joie du Seigneur ce matin et de partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec vous. Cette semaine, le Seigneur nous a visités par sa parole et son esprit. Nous le bénissons pour toutes choses. Si bon, le Père est si bon. Si bon, le Fils est si bon. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Une fois encore. Si bon, le Père est si bon. Si bon, le Fils est si bon. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Parfait. Parfait, le Père est. Parfait, le Fils est parfait. Parfait, l'Esprit Saint est parfait. Amour. Amour, le Père est amour. Et le Fils. Amour, le Fils est amour. Amour, l'Esprit Saint est amour. Une fois encore, amour. Amour, le Père est amour. Amour, le Fils est amour. Amour, l'Esprit Saint est amour. Ce matin, nous sommes dans l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur est là, c'est sa propre nature. Dieu est amour. Ce n'est pas un sentiment, c'est l'expression de ce qu'il est lui-même. Et l'amour est tellement puissant que rien ne peut lui résister. Si dès notre conversion nous avons compris cette réalité, beaucoup de choses ne se seront pas passées dans nos vies. L'amour n'échoue jamais, ne faillit jamais. Mais nous avons grandi dans la pensée de l'amour inférieur. Cet amour qui se blesse facilement, cet amour qui change au gré des vents, de l'humeur des gens. Et lorsqu'on nous a parlé de l'amour de Dieu, cela a été très difficile que beaucoup d'entre nous croient à cette réalité. Car combien de gens ont vu des personnes leur dire qu'ils les aimaient et ensuite se tourner contre elles en disant que je te hais. Combien de gens ont entendu des personnes qui leur ont dit mon ami ou bien ma chère, je t'aime pour toujours. Et après, simplement, ils ont donné dos à cet amour-là. Combien d'enfants ont entendu leurs parents leur dire « Nous vous aimons » et qu'un jour, ils pointent du doigt en leur disant « Je te hais, quitte ma maison. » Alors, quand on a commencé à parler de l'amour de Dieu, les gens ne pouvaient pas croire. Toute autorité, toute figure d'autorité nous a menti sur l'amour. La figure d'autorité paternelle nous a menti sur l'amour. La mère nous a menti sur l'amour. Les professeurs nous ont menti sur l'amour. Nos voisins nous ont menti sur l'amour. Et venir dire que Dieu nous aime inconditionnellement, la mentalité humaine refuse cela parce qu'il ne l'a pas expérimenté dans son esprit. Et les gens luttent partout avec l'amour de Dieu. Et cela est très important, frères et sœurs. Ce qui donne la stabilité, la victoire à la vie chrétienne, c'est lorsque je réalise que l'amour de Dieu est réel. Parce qu'il y a plusieurs degrés d'amour. C'est cet amour qui a guéri un homme comme Pierre, qui avait trahi de façon horrible, de façon vraiment méprisante Jésus-Christ, qui avait osé dire à son maître, celui avec qui il a marché pendant 3 ans, ce maître était assis au milieu des ennemis, même pas à 20 mètres de lui, il a osé dire à haute et intelligible voix que non seulement il ne connaissait pas cet homme, il ne l'avait jamais vu, il n'a aucune relation avec lui. Et c'est là que Pierre s'est rendu compte que l'amour, le soi-disant amour qu'il avait pour le maître, n'était pas l'amour. Et cela n'a pas choqué ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Ils savaient tous, sans exception, qu'aucun homme n'a le genre d'amour que eux ils sont et ils ont. Et c'est pourquoi Pierre a été facilement excusé. C'est pourquoi Pierre a été repris, simplement. Et l'amour de Dieu s'est révélé à Pierre. Et cela a guéri l'âme de Pierre une fois pour toutes. Quand Pierre a compris que l'amour qu'il avait pour exercer envers son maître, c'était de l'amour humain, de l'amour fini, de l'amour malléable, de l'amour qui pouvait changer de forme et qui pouvait échouer, il a commencé à vivre, à recevoir l'amour qui est éternel, l'amour qui excuse tout, qui croit tout et qui est capable de souffrir, de se livrer pour autrui. Et Jésus de lui dire, Pierre, m'aimes-tu comme ceci-là? Mais quand nous le lisons en français, nous ne voyons pas. Il a utilisé 3 fois le même verbe en français, m'aimes-tu? Mais quand Jésus parlait à Pierre, dans ce grec araméen, il ne parlait pas du même mot. Il a commencé par l'amour supérieur. Il a utilisé l'agapao, l'agapé de Dieu. Est-ce que Pierre, il a essayé de défier Pierre? Il a essayé de remonter le niveau de Pierre. Quand il a dit à Pierre, est-ce que tu mets agapao? Est-ce que tu m'aimes de l'amour que Dieu seul a? Pierre dit, non Seigneur, je ne comprends rien. 2 fois Jésus lui a dit cela. Et maintenant Jésus de redescendre à un niveau inférieur avec l'amour philéo. L'amour horizontal entre les hommes, entre 2 amis, entre un homme et sa femme. Jésus descend à ce niveau inférieur et même là encore il dit à Pierre, m'aimes-tu, est-ce que tu me philéo? Si tu n'arrives pas à m'agapao, est-ce que tu me philéo au moins? Est-ce que tu arrives à m'aimer de l'amour de 2 amis, entre 2 amis, entre un homme et une femme? Même là, Pierre est troublé. Il dit, lui, il ne sait plus rien. Parce qu'il ne va plus mettre son doigt au feu pour quoi que ce soit. Jésus dit, tu as bien répondu. Mais le jour de la Pentecôte, l'amour que Pierre ne connaissait pas, l'amour auquel Pierre a aspiré, l'amour auquel les multitudes d'hommes sur cette terre aspirent, et c'est ce manque d'amour qui amène des philosophies, c'est ce manque d'amour qui amène des sectes, c'est ce manque d'amour qui amène la violence religieuse, c'est ce manque d'amour qui amène la criminalité, ce manque d'amour qui amène toute forme de péché. Le jour de la Pentecôte, cet amour est descendu du ciel pour être répandu enfin dans le cœur des êtres humains qui n'ont jamais connu cet amour-là. Et ce jour-là, Pierre, l'homme a été transfiguré littéralement. L'homme a été changé littéralement. Cet homme qui a renié le Seigneur, cet homme qui a dit non, qui ne connaissait pas Jésus, cet homme-là, ce jour-là, quelque chose de spécial, de surnaturel, de divin, a été déposé dans son esprit. Et c'est cet amour-là, frère, lorsqu'on ouvre la Bible, on parle d'amour. On ne parle pas de l'amour des artistes. On ne parle pas de l'amour des musiciens. On ne parle pas de l'amour des choses. On vous parle de l'amour nature de Dieu, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est cet amour-là qui a amené Pierre. Lorsque la tradition dit que lorsqu'on allait tuer Pierre, on a demandé qu'on va le crucifier. Il a dit, il n'a même pas hésité. Il leur a dit simplement, je suis prêt à mourir sur une croix, mais je ne mérite pas de mourir comme Jésus. Crucifiez-moi à l'envers. C'est cet amour-là qui donne la victoire. C'est cet amour que le Seigneur nous a donné. C'est cet amour qu'il a répandu dans nos cœurs. Et quand cet amour est là, frère, cet amour-là arrive à passer les monts et vallées avec le Seigneur. Cet amour nous permet de progresser et d'aller de l'avant. Et c'est cet amour-là dont j'ai parlé pendant cette semaine-là, donc au niveau de notre esprit, qui doit aller dans notre âme et se manifester dans nos paroles et même nos regards et même nos actes. Voilà le résumé de ce que nous avons dit pendant cette semaine. Et ce matin, je vais tout juste donner un petit message et en posant une question. Qui es-tu? Une solution ou un problème? Je voudrais interpeller chacun d'entre vous. Qui es-tu? Qui êtes-vous? Une solution ou un problème? Je ne vais pas répondre à votre place. Je vais simplement parler et vous saurez si vous êtes une solution ou un problème. Et vous allez vous rendre compte que si vous êtes une solution, alors autour de vous, il y aura la paix. Mais si vous êtes un problème, vous vous rendrez compte que vous créez vous-même, vous êtes la source de vos problèmes, de votre environnement. C'est si simple, frère. La vie est comme cela. La vie chrétienne est comme cela. La vie naturelle est comme cela. Partout, c'est comme ainsi. Alors, regardons attentivement ce que nous voulons ce matin partager. Tout ce qui a été créé dans ce monde-là a été créé pour être simplement une solution. Bien que ça ne soit pas parfait, tout ce que les hommes ont inventé sur la terre ou fabriqué, ils l'avaient fabriqué dans l'intention que ces choses soient une solution pour les hommes. Les médicaments ont été inventés parce que les hommes sont malades. Les médicaments ont été inventés pour être la solution des hommes. Le naturel que je vais exposer est incomplet parce que ne considérons pas les effets secondaires des maladies qui peuvent tuer, des médicaments qui peuvent tuer des gens. Mais l'homme a inventé, l'homme a fabriqué des médicaments dans un but d'être, ces médicaments soient la solution de nos maladies. Quand l'homme avait un problème de transport de longue distance, l'homme a commencé d'abord à inventer le vélo. Et après, il est passé au moteur, à la moto. Et selon l'espace, la mer, le bateau, l'air, l'avion, la route, la voiture. Je vous ai dit, ces solutions sont imparfaites parce que la voiture peut se rouler, rouler et vous tuer. Laissons de côté, quand on prêche, laissons de côté les os. Et on va les réviser plus tard, manger la chair. Voilà. Dès que j'ai dit ça, c'est dit, ah oui, mais ce n'est pas une solution. Et les accidents, laisse tomber ça, mon ami. Ne laisse pas rouler ton cerveau trop vite. Restons dans le contexte des solutions. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement toujours pour contredire. Ouais, mais ça, mais attends, non, attends, calme-toi. Les vêtements ont été fabriqués par les hommes pour répondre aux problèmes du corps, les chaussures, pour répondre aux problèmes de la neige. En tout cas, moi, c'est ma solution. Tout ce que les hommes ont fait, ont fabriqué, était la recherche d'une solution à un problème bien donné par rapport à l'homme lui-même. Alors, c'est pourquoi, bien-aimés frères, en allant Dieu l'unique source, Dieu le seul créateur, a créé un jour un être extraordinaire, appelé Lucifer. Un archange extraordinaire. Un être merveilleux. Et quand Dieu l'a créé, Dieu en était satisfait. Et la Bible dit dans Ézéchiel 28, Dieu, quand il présente ici par la bouche de ce prophète-là, mais il parle sous forme d'analogie avec des rois de Tyr, mais en réalité, derrière ça, nous voyons qu'il parle effectivement de ce Lucifer qui plus tard va devenir Satan. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit dans la fin du verset 12, il dit, tu mettais le sceau à la perfection. Donc, Dieu parle de Lucifer. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et il cite ces pierres précieuses-là. Et vers la fin de ce passage, il dit, tes tambourins, c'est-à-dire, et tes flûtes, étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Vous voyez, Dieu a créé Lucifer. Si vous voyez le rôle, la fonction qu'il faisait, c'était pour mettre le sceau de Dieu à la perfection. Lucifer était une solution d'adoration et de louange pour Dieu. Car Dieu est un être qui a son nom, c'est-à-dire être l'objet d'adoration. On doit l'adorer. On doit l'exalter. On doit le célébrer. Et Dieu a créé quelqu'un pour accomplir cette tâche. Et il l'a créé de façon parfaite. Très beau. Il a mis et il mettait le sceau de Dieu à la perfection. Mais un jour, c'est un des êtres spirituels à qui il a donné de la volonté, comme l'homme. Mais un jour, cet être merveilleux, au lieu de regarder celui qui est l'objet d'adoration, a commencé à détourner son regard sur lui-même. Et Lucifer a créé Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Lucifer a créé Satan. Lucifer s'est transmué en Satan. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été la solution permanente, il n'a pas joué son rôle de solution au problème d'adoration de Dieu. Écoutez-moi, frère, vous allez comprendre. C'est un message si simple, mais qui nous interpelle chacun d'entre nous. Alors, Dieu n'a pas cessé, et un jour, au conseil divin, le Père a dit au Fils et au Saint-Esprit, je vais créer la terre, je vais créer une planète qu'on appelle Terre. Et je vais y mettre là-bas, je vais créer un homme. Car ce Lucifer-là, qui aurait dû jouer ce rôle principal pour nous, il nous a trahis. Je vais créer un être. Et il aura une forme, un morphos, c'est ça, de chair. Mais c'est un être spirituel qui va nous ressembler. Je vais lui donner une âme et je vais mettre un corps à travers la poussière de la terre. Et il sera notre représentant sur la terre. Son but, je vais définir cela dans les 6 verbes que je vais utiliser à son égard. D'abord, je vais le créer, il sera une créature. Deuxième verbe, je vais le bénir. Troisième verbe, je le rends fécond. Quatrième verbe, il va se multiplier. Cinquième verbe, il va remplir. Sixième verbe, il va assujettir, et certains verbes, il va dominer. Pourquoi? Il va amener le règne de Dieu sur la terre. Il va promouvoir le royaume de Dieu sur toute la terre. Et je suis Dieu, je suis un roi. Mon règne doit s'étendre sur tout. Et voici mon représentant sur la terre qui est la solution à mon problème de règne, car j'ai créé le ciel pour moi, j'ai créé la terre pour l'homme. de façon légitime et légale, je n'ai pas le droit d'aller régner sur la terre, mais je vais créer un homme qui est semblable à moi en esprit, mais je vais lui donner un corps et la terre sera pour lui. Et les deux, on sera en communion. Lui, il va régner sur la terre, moi je règne dans les cieux. C'est pourquoi on dit notre Père qui est aux cieux. On n'a pas notre Père qui est sur la terre. Et cet homme a été créé. Pourquoi? Pour résoudre le problème du règne de Dieu sur la terre. Tout lui a été donné. Toutes les capacités lui ont été données. Tout. La nourriture. Son palais qu'on appelle le jardin d'Éden. Le sol était rempli de métaux précieux. Il avait tout. Il n'était pas malade. Il n'avait rien. Parce qu'il a été aussi créé, lui aussi, comme Lucifer, pour résoudre ce problème d'extension du royaume de Dieu sur la terre. Voici qu'un jour, lui aussi comme Lucifer, Lucifer qui est devenu Satan maintenant, est venu parce que Lucifer a perdu sa place. Lucifer s'est avancé. Maintenant, il est Satan, il s'est avancé. Il a dit à Adam, la même stratégie, la même technique. Il lui a fait douter de la réalité de l'amour de Dieu. Il lui a fait douter de la réalité de la parole de Dieu. Mais Adam savait que ce que Lucifer disait était faux. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Adam chute? Entre-temps, au moment où Dieu a créé Adam, Dieu a vu que Adam avait un problème. C'est la solitude. Dieu s'est précipité et il a fait une aide semblable à Adam à travers Ève. Ève était la solution de qui? D'Adam. Adam est la solution de qui? Dieu. Et Dieu dit à Adam, ton problème de solitude, je l'ai résolu. Et effectivement, quand Adam a vu Ève, il s'est émerveillé. Lorsque, comme quand Dieu a créé Adam, Dieu s'est émerveillé. Quand Adam a vu Ève, il dit, voici cette fois-ci, c'est celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ève, comme Lucifer a créé un problème, Ève a créé un problème à Adam. Et Adam a créé un problème à Dieu. Ils sont tous devenus des problèmes. Et chaque problème a un prix à payer. Quand Adam et Lucifer, qui était une solution, est devenu un problème, il est devenu Satan. Quand Adam, qui était une solution, a refusé, il a payé un prix, il a reçu la nature satanique. Et les souffrances ont commencé sur la terre. Écoutez-moi, frère, ce que je vous dis est si simple. Chaque fois que vous créez un problème, vous devez payer le prix. À quelque niveau, vous devez payer le prix. Que vous soyez d'accord ou pas, ce n'est pas mon problème. Vous voulez faire semblant, ne faites pas. Tout problème que vous créez est une semence. Et toute semence que vous semez, vous la récoltez. Il y a des choses qui arrivent aux chrétiens, on ne comprend pas. On prie pour eux, on jeûne, on leur impose les mains. Mais non, ils ont créé eux-mêmes des problèmes. Ils ont créé eux-mêmes des problèmes. Vous savez, qu'est-ce qui faisait que la foule aimait les enseignements de Jésus? Jésus n'était pas plus intelligent que les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Non! Ces gens-là étaient des grands docteurs. Pourquoi Nicodème, le docteur d'Israël, s'est précipité pour venir voir Jésus? Parce que quand Jésus enseignait, il enseignait terre à terre. Et la foule aimait ça. Il enseignait des choses tellement simples que les pharisiens méprisaient. Il dit, mais il n'a même pas un langage théologique. Il ne dit pas des phrases qui frappent les gens. Comprenez, s'il avait parlé d'anthropologiquement, et théologiquement, physiquement, et moralement, ceci, ça c'est fort. Mais ce monsieur-là, il parle terre à terre. Il parle pour le petit peuple. Mais le petit peuple buvait ses paroles comme du vin doux. Ils aimaient ça. Parce que ça répondait à leurs problèmes. Ça répondait à leurs soucis. C'est cela, frère. Ça ne vous sert à rien de vous dire de gros mots, d'être pédant. Ça ne vous sert à rien. Alors que votre cœur, vous avez un cœur d'enfant qui soupire à la réalité. Vous paraissez au dehors comme quelqu'un de géant, mais vous n'êtes qu'un simple enfant intérieur. Et vous avez besoin encore de recevoir les choses simples qui vous font du bien. C'est cela l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas fait pour les grosses têtes. C'est fait pour les cœurs. Vous voyez bien, mes frères, c'est des choses si simples. Ce sont des choses que j'ai à force, ça fait 35 ans, je voyais dans le monde entier. Écoutez, 35 ans, dès que j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à voyager dans le monde entier. 35 ans, en Asie, l'Inde, Taïwan, toutes ces régions, je voyais l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, le Canada, tout visiter, de l'Afrique du Sud jusqu'au Maroc, Algérie, tout. Frère, donc, j'ai visité les continents, les pays. Je me suis assis, j'ai regardé les cultures, j'ai regardé les églises, j'ai regardé les dénominations, j'ai regardé les pasteurs. Et je me suis assis, j'ai dit quelque chose ne fonctionne pas bien quelque part. C'est les mêmes souffrances, les mêmes problèmes qu'on rencontre. J'ai cherché la solution partout. Et je me suis assis, j'ai dit, mais tiens Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu dit, retourne à ma parole, regarde. Je peux vous dire, je suis rentré dans des palais présidentiels. J'ai rencontré des présidents et des premiers ministres. Je les ai rencontrés dans plusieurs ans. Je ne peux pas vous le dire en secret comment. Mais j'ai vu des hommes, ces hommes-là pleurer, verser des larmes. Quand tout le monde les applaudit, quand on les voit sur les télévisions, quand ils sont seuls dans la solitude, ils pleurent. Je les ai vus à genoux. J'ai vu des évêques, des archevêques à un grand niveau. Je les ai rencontrés. Ils se mettent à genoux. Dans leur, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. J'ai rencontré ces hommes, des savants, atomistes, que ce soit en Suisse, en France et aux États-Unis. J'ai rencontré des gens qui pleurent. Pourquoi? Ils ont toute la connaissance, ils ont la puissance, mais quelque chose manque dans leur vie. C'est de ça que je vous parle. Je ne suis pas venu pour vous enseigner, vous êtes déjà très fort, vous êtes intelligent. Je suis venu partager avec vous simplement le peu que je sais. De l'homme. Le peu que je sais de l'homme. Je ne connais pas beaucoup de l'homme, hein, mais le peu que je sais là, je peux vous le dire. Alors, quand vous voyez ces grands qui nous dominent, quand vous les voyez à genoux, pleurant, se demandant qu'est-ce qui va se passer, alors vous posez la question, mais vous avez fait le bon choix, Jésus-Christ. Ah oui, mais vous êtes heureux. Vous êtes heureux d'avoir été saisi par Christ. Vous êtes heureux d'avoir été appelé, même dans votre misère, par Christ. Adam a été un problème. Ève a été un problème pour Adam. Bien-aimés frères, alors, Dieu s'est assis un jour. Il est revenu à son conseil. Il dit, venez, il y a un conseil divin encore. Nous avons créé Lucifer, ça n'a pas marché. On a créé Adam et Ève, ça n'a pas marché. Ils n'ont fait que créer des problèmes. Mais il faut que ce problème du règne de Dieu soit résolu sur la terre. Qu'est-ce qu'on va faire? On a créé des choses hors de nous-mêmes, ça n'a pas marché. Mais pourtant, il faut que je règne, je suis roi. Je suis Dieu, on doit m'adorer. Il faut que je trouve quelqu'un qui m'adore. Il faut que je trouve un peuple qui m'adore. Hein. Et je dois trouver quelqu'un, des gens qui vont continuer à étendre mon règne sur la terre. Donc les deux éléments de Dieu. Dieu a deux problèmes. C'est qu'il soit adoré, parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Et ensuite, on doit étendre, il est roi, on doit étendre son règne. Donc il fallait qu'il trouve. Alors dans ce conseil restreint, le père a dit son projet. Le fils a levé la main et dit, papa, je suis prêt. Je vais être ta solution. Papa, je vais être ta solution. Le père a dit, ah bon? Tu es prêt? Lisez-le dans Hébreux 10, vous allez trouver ça. Il a dit, mais je suis venu, tu m'as formé un corps. Tu n'as pas voulu ni holocauste, rien. Il parlait où? On dit que quand Jésus venait sur la terre, mais Jésus est venu sur la terre comment? Par Marie. Mais avant de venir sur la terre, il y a eu un conseil au ciel. Lis dans Hébreux 10. Il a dit, je viens, Père, pour faire ta volonté. Est-ce que vous pensez que c'est le jour qu'il est né de Marie que le petit enfant a dit ça? Non! C'est au ciel qu'il a dit ces choses-là. Père, ne t'inquiète pas. Je veux être ta solution. Et c'est pourquoi, dans Jean 6, 38, quand il a commencé son ministère, il dit, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et je ne fais rien, parce qu'Adam a fait sa volonté. Lucifer a fait sa propre volonté. Mais moi, je suis différent d'Adam, du premier Adam. Je suis le dernier Adam. Je suis le second homme qui commence. Le premier Adam et toute sa descendance, ils n'ont fait que frustrer le Père. Ils n'ont fait que offenser le Père. Ils n'ont été que des solutions pour le Père. Et le Père a essayé de génération en génération. Il a pris Noé. Il a pris Abraham. Il a pris Moïse. Il a pris David. Il a pris tous ces hommes-là. Mais le Père était insatisfait. Et j'ai décidé d'être la solution du Père sur la terre. Et il est venu pendant ces 33 ans et demi. Il n'a fait que uniquement. Il a dit, je ne dis que ce que le Père me dit de dire. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et le seul endroit où l'ennemi a pressé pour qu'il abandonne, c'est à Gethsémané. À Gethsémané, c'était la phase donc ultime pour aller à la croix. Si Gethsémané n'avait pas réussi, la croix n'a pas de valeur. La croix n'aurait aucune valeur. Gethsémané est le point central. C'est là où le succès, c'est là où tout. C'est à Gethsémané que son sang a commencé à couler. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. C'est à Gethsémané que sous la pression de l'ennemi, sous la pression de la chair, il dit, mon âme est triste. L'âme et le corps se sont ligués contre son esprit. Satan a enveloppé. Les anges étaient arrêtés, mais aucun ange n'avait le droit de lui porter secours jusqu'à ce que sa volonté soit entièrement, jusqu'à ce qu'il dise, Père, je suis venu pour être ta solution, je demeure ta solution, quoi qu'il advienne. Et là, à Gethsémané, il a fait appel à ses trois meilleurs amis. Mais Satan les a oppressés. Tous se sont endormis. Sa chair était son ennemi principal. Son âme était tellement triste. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a commencé à crier. Il y a une lutte profonde. Pour que la sueur de quelqu'un devienne comme des grumeaux de sang, ça veut dire quelque chose en train de péter à l'intérieur. Toute sa volonté, Satan était lié contre ça. Parce que Satan savait que si cet homme-là continue, il serait la solution du Père. Voici la vie chrétienne. Il est resté là. Quand trois fois, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Trois fois. On ne sait pas, c'est pas pendant, il n'a pas répété trois fois. Le temps du Gethsémané, on ne sait pas combien d'heures il a passé. Mais ça veut dire que durant ce temps où il a passé, il y a eu cette lutte. Il a fallu qu'il dise, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand il a dit, c'est la troisième fois, c'est en ce moment que les anges sont précipités. Parce que les anges, c'était insupportable pour les anges de voir leur Seigneur, celui qu'on adore au ciel, celui dont le nom, quand il est dit au ciel, tout genou ploie, le nom qui règne dans le ciel, de voir cet être-là, maintenant à genoux, méprisé, avec Satan. Les anges voient Satan et les démons qui l'oppressaient. Mais les anges sont plus puissants qu'eux, mais ils n'avaient pas le droit de les secourir. Et quand il a dit enfin, la troisième fois, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, je veux boire de cette coupe-là. les gens sont précipités rapidement pour venir le secourir. Mais en ce temps, il avait déjà gagné. Il a dit à ses disciples, levez-vous, allons, je suis la solution du Père. Regardez ce qu'il dit dans Jean 17. Regardez ce qu'il dit lui-même. Il nous montre qu'il est la solution. Dans Jean 17, il fait le résumé de son ministère sur la terre. Dans Jean 17, il nous dit pourquoi il est venu sur la terre. Et il le dit avec clarté. Et il dit ceci, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit, écoutez maintenant, verset 4, j'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Il dit, enfin, Père, j'ai achevé l'œuvre. Ce pourquoi on s'est mis d'accord au ciel. Tout est arrivé à fin. J'ai franchi cette barrière de la tentation. J'ai franchi cette barrière de la lutte entre l'âme et le corps. J'ai franchi tout ce qui a fait tomber Lucifer, ce qui a fait tomber Adam, ce qui a fait tomber les hommes de toutes les générations. J'ai franchi cela. Et maintenant, il est allé à la croix sans aucun problème. Parce que Gethsémané, s'il n'y a pas eu de victoire à Gethsémané, pour aller à la croix, c'est très difficile. Parce que la croix, il savait ce qui allait se passer. À la croix, il ne porterait pas seulement les péchés des hommes, mais il deviendra péché. Il sera identifié à l'ennemi comme le serpent dans le désert. C'est pourquoi il a dit à Nicodème dans Jean 3, il dit de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Que le Fils de l'homme. C'est pourquoi quand il est devenu péché, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens ne comprennent pas. Il n'a pas dit que Dieu l'a abandonné. Dieu hait le péché et son Fils est devenu péché. En plein midi, le ciel a été assombri. En plein midi, le soleil a refusé de briller. En plein midi, tout est devenu ténèbre, comme la nature de Satan. En plein midi. Et le père, l'enfant ne pouvait pas supporter cette séparation momentanée. Il dit, il n'a pas dit mon père, non. Le père dit, mon Dieu, il parle à la place de l'humanité. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il s'est repris, il dit, non, c'est pour ça que je suis venu. Il dit, père, pardonne-leur. Il dit, tout est accompli, la loi est accomplie. Et ce pourquoi je suis venu est accompli. Et c'est pourquoi le voile a été déchiré instantanément. Enfin, Dieu sera libre de venir sur la terre maintenant. Dieu n'a pas la liberté. Mais le Fils, maintenant, vient d'ouvrir la porte au Père pour que le Dieu quitte le lieu très saint et vienne sur la terre et puisse habiter avec les hommes. La liberté, la solution que le Père voulait, maintenant, ça revient. Le premier Adam a échoué. Le dernier Adam est venu restaurer et il a commencé une nouvelle génération d'hommes qu'on appelle la nouvelle création. Il a commencé par sa résurrection un nouveau régime d'hommes qu'on appelle la nouvelle création. Alors, bien-aimés frères et sœurs, lorsque Jésus était sur la terre, dans Marc 3, il a cherché des disciples pour être sa solution. Parce que sur la terre, pendant son ministère, Jésus ne pouvait pas travailler seul. Donc, il a cherché des gens qui vont l'aider pour être sa solution pour les envoyer. Il dit dans Marc 3, verset 13 à 19, il dit qu'il est monté sur la montagne, il a prié toute la nuit et il a choisi 12 disciples pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Pour faire quoi? Pour faire ce qu'il devait faire, les envoyer, préparer les missions et tout. Ces disciples-là étaient la solution de Jésus. Ces disciples étaient la solution de Jésus dans le ministère. Pour le ministère. Et parmi ces disciples-là, il y a un qui a été un problème qu'on appelle Judas Iscariote. Alors, bien-aimés frères, quand Jésus était à la fin de son ministère sur la terre, il y avait un problème. Il avait un problème maintenant. Le Père avait un problème, Jésus l'a résolu. Jésus est venu et maintenant il a un problème. Il doit s'en aller. Ces pauvres nouveaux convertis, à qui il va les confier? La question est là. Il s'est tourné vers l'Esprit Saint. Il dit, sois ma solution. Sois ma solution en venant vivre dans ces hommes, en venant vivre sur la terre. Tu ne vis pas sur la terre, Saint-Esprit. Tu vis au ciel comme le Père. Mais pourras-tu, pendant le temps de l'homme sur la terre, après maintenant le nouveau régime, après maintenant le temps de, avec le temps de la grâce, es-tu prêt à venir rester avec les hommes sur la terre et vivre en eux jusqu'à ce que je vienne les enlever? Le Saint-Esprit lui a répondu, de même que tu as accepté toi d'être la solution du Père, tu as accepté de venir pécher, ce qui est horrible. Tu as accepté de venir donner ta vie, mais ce qui est horrible. Mais ce n'est pas difficile pour moi de venir vivre dans des gens sanctifiés. Toi au moins, tu as le plus souffert. Toi, tu ne connais pas le péché. Tu n'as pas commis de péché. Et toi, tu es devenu péché. Et moi, je dois venir vivre dans des gens que tu as déjà sanctifiés par ton sang. Qu'ils soient nés de nouveau. Pour moi, c'est facile. Donc, le Saint-Esprit est devenu la solution. Jésus a dit au Saint-Esprit, merci, car tu as résolu mon problème. C'était comment je les laisserais. Est-ce que je les laisserais orphelins? Maintenant, ils ne sont plus orphelins. C'est pourquoi Jésus est parti dans la joie au ciel. Il dit à ses amis, à ses disciples, non, ne craignez pas, je ne vous laisserai pas orphelins. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir, le Consolateur. Il sera avec vous, il sera en vous. Il vous conduira, n'ayez pas peur. Comme je vous ai conduit physiquement, lui vous conduira. Il sera votre solution. De même, quand vous avez un problème, vous me posez la question, le Saint-Esprit sera votre solution. Vous pourrez lui poser des questions. Il va vous répondre, il va vous guider, il va témoigner de moi. Le Saint-Esprit est la solution de Jésus pour nous. Donc, on rentre dans le processus de victoire maintenant, de succès. Et bien aimés frères et sœurs, et le Saint-Esprit s'est tourné vers la nouvelle création. Voulez-vous être ma solution? Il nous parle à nous maintenant. Voulez-vous être ma solution? Jésus a été la solution du Père. Moi, je suis la solution de Jésus pour vous garder. Mais moi, je dois faire de telle manière que le règne du Père au nom de Jésus soit étendu sur la terre. Mais je ne peux pas le faire sans vous. Et c'est pourquoi je suis venu vivre en vous. Voulez-vous être ma solution? La question est importante, frère. De même que le Fils a obéi au Père, de même que le Saint-Esprit obéit à Jésus, le Saint-Esprit nous demande, voulez-vous m'obéir à moi aussi? Ah! Voulez-vous être ma solution? Car si vous êtes ma solution, je serai la solution de Jésus, et Jésus est la solution du Père, tout le processus, tout le cycle est complet. Il y aura la joie dans le ciel. Le Père sera heureux. Mais si vous refusez d'être ma solution, si vous m'attristez, j'attriste le cœur de Jésus et Jésus attriste le cœur du Père. C'est-à-dire que le processus, le Père ne sera pas heureux. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la question est là. Chaque fois que vous venez à l'église, là, vous venez à l'église comme problème ou solution. Vous venez à l'église régulièrement. C'est pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit sera votre solution et vous devez être la solution du Saint-Esprit. Car vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez alors mes témoins. Et c'est pourquoi dans Actes 13, versets 1 à 4, l'église d'Antioche, quand les gens priaient, tous les gens, parce que le siège missionnaire devait être à Jérusalem. Mais comme les gens ont désobéi, le siège missionnaire s'est déplacé à Antioche. Il est resté, parce que les gens ont désobéi, il y a eu la persécution, il est resté seulement Pierre et Jacques à Jérusalem. Tout le centre, tous les apôtres, les grands docteurs, tous étaient maintenant à Antioche. Et à Antioche, ils étaient en train de jeûner et prier comme nous le faisons. Ils cherchaient la face du Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, quel est le but de Dieu pour l'église d'Antioche. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? membre de l'église d'Antioche, comme vous êtes en train de jeûner et prier, vous devez jeûner et prier. Il se posait la question. Et ce jour-là, dans Acte 13, il est écrit ici que le Saint-Esprit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, vous voyez bien maintenant, c'est lui qui règne sur la terre. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Barnabas et Saul étaient la solution du Saint-Esprit. Envoyés par lui. Et quand, si vous lisez plus loin dans Acte 16, ils voulaient aller dans telle direction, le Saint-Esprit a dit non. Si vous êtes ma solution, vous devez m'obéir. Oui, mais on sait, on a appris qu'il y a beaucoup de païens là-bas. Le Saint-Esprit a dit, c'est moi qui dirige. Vous n'irez pas là-bas. Ils ont voulu en Asie mineure. Le Saint-Esprit a dit non. Il dit, bon, on va aller dormir. Ils dorment, le Saint-Esprit leur donne un rêve. Ils voient un Macédonien qui crie, au secours, au secours. Quand ils se réveillent, le Saint-Esprit dit, vous devez aller en Macédoine. Ils s'en vont en Macédoine, c'est là-bas qu'on les frappe, on les met dans les chaînes. Ils n'ont pas dit, on s'est trompé. Ils n'ont pas dit, mais Saint-Esprit, tu nous as fait ce coup-là, on n'aime pas ça. Mais nous, on est là pour être ta solution, tu nous fais frapper comme ça. Tu nous fais châtier comme cela. Mais la plupart, si ce n'est pas dans quelques pays européens, la plupart des chrétiens vivent dans la persécution. Européens, vous êtes assis ici, très bien à l'aise là. Vos persécutions, c'est quand le pasteur dit de venir balayer l'église. C'est ça seulement le problème. C'est ça votre persécution. Vous avez une telle liberté que vous ne savez même plus que la vie chrétienne que... Non, là, en dehors du continent américain, une partie du continent américain et de l'Europe, tout le monde entier, les trois quarts du monde entier, les chrétiens du monde entier souffrent. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais regardez leur foi, regardez leur engagement. Ils avancent avec le Seigneur, dans la souffrance, dans les cris. Les trois quarts du monde, toute la grande Chine, prenez tous ces pays de l'Asie. Pour venir à l'église, c'est un problème. Ah, tu ne sais pas si tu vas sortir vivant de l'église. Des gens sont arrêtés, ils tirent, des petites bombes sont jetées. Tu viens à l'église en te disant, en disant à ta femme et à ton mari, bon, au revoir, parce qu'on ne sait pas quand on va sortir, qu'est-ce qui va se passer. Vous venez ici, vous prenez vos voitures, vous êtes dans l'air chaud. Chauffage, mofage. Non, je veux que vous réveillez un peu, frère. Vous réveillez un peu. Si Dieu vous a permis d'être à l'aise, maintenant commencez à voir. Mais écoutez, soyez la solution des autres. Les anciens de l'église sont la solution du pasteur. Le comité d'église est là pour être une solution pour l'église locale. Soyez la solution. Si on vous a établi diacre ou ancien, on ne vous a pas établi pour dominer. On vous a établi pour être la solution de l'église. On vous a établi, il est dit que les anciens de l'église d'Éphèse avaient le discernement, regardaient avec les pasteurs qui étaient là-bas, regardaient quels étaient les problèmes de l'église. Et dans le comité d'église, ils essayaient de voir spirituellement comment résoudre tel problème de l'église. Si Dieu vous a fait grâce, Dieu vous a établi dans une responsabilité, voyez ça comme un honneur et voyez-vous comme une solution pour la bonne marche de l'église. Ne soyez pas des problèmes pour les gens inutilement. Ça ne vous servira pas. Soyez une solution simplement. Et vous, chrétiens, soyez des solutions les uns pour les autres. Soyez des solutions. Dieu vous a fait grâce. Certains sont bien établis. D'autres ont des moyens. D'autres n'ont rien du tout. Mais quand tu sors de l'église, regarde, ouvre tes yeux, dis, Seigneur, j'ouvre mes yeux. Parle-moi. Peut-être cette sœur âgée, tu ne sais même pas quel problème elle traverse. Elle est dans l'église. Elle vient, elle est assise simplement. Quand c'est fini, tu ne laisses pas le Saint-Esprit te dire, mais cette femme âgée-là, accompagne-la chez elle pour voir comment elle vit. Et tu vas arriver chez elle, tu verras, tu seras une solution pour elle, pour tel problème. Il y a votre contexte culturel, mais n'oubliez pas que vous êtes des gens du royaume des cieux, avant d'être français. Vous êtes d'abord des gens du royaume des cieux, avant d'être français. Hein? Ah oui. Je préfère vous le dire clairement là. Ah non, non, on ne se mêle pas des problèmes des gens. Ah bon? Un chrétien ne se mêle pas des problèmes de quelqu'un? C'est pas vrai? Dans quelle Bible tu as vu ça? C'est comme si mon pied disait qu'il ne se mêle pas des problèmes de mon bras. Ce n'est pas possible. Quelle sorte de solution êtes-vous? Vous venez toute seule à l'église tous les dimanches, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de véhicule ici. Pourquoi vous ne direz pas, frère, sœur, à quel endroit vivez-vous? Bon, tous les dimanches, vous m'attendez à 8h30. On s'en va ensemble. Simplement. Soyez une simple solution. Ça ne vous coûte rien, ça. Soyez une simple solution. L'église primitive, les gens rassemblaient tout, ils mangeaient ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Mais l'église primitive se souciait de voir, de pourvoir aux besoins des uns des autres. Ne priez pas pour les autres. Quand il y avait un besoin, il ne partait pas prier. Chacun voyait ce qu'il pouvait faire pour l'autre. C'est ça qui développe l'amour pratique. L'amour pratique s'appelle compassion. L'amour pratique s'appelle compassion. Et la compassion est toujours pratique. L'amour a plusieurs noms. D'un côté, ça s'appelle miséricorde. De l'autre côté, ça s'appelle compassion. Et chacun de ces noms a une pratique, est quelque chose de pratique. Pourquoi ne voulez-vous pas être la solution de vos frères et de vos sœurs qui sont dans la dépression? Dieu vous a donné une grâce. Pourquoi ne pas les visiter une fois par semaine? Le week-end, on va aller chez telle sœur, on va aller rester une heure de temps avec elle. On va aller simplement causer. On n'amène rien, mais on amène l'amour. Sœur, la situation que vous traversez, nous sommes avec vous. Nous sommes venus vous encourager. Priez avec elle. L'entourer de vos bras. Cette personne âgée qui est dans la solitude, elle vit seule dans son appartement. Pourquoi vous qui êtes plus jeune, vous allez me dire, vous êtes occupé. Un jour, vous allez tout laisser ici. Dieu vous dit quelque chose. Dieu m'a appris quelque chose d'important. Si vous pensez que tout ce que vous avez là est bien, écoutez, je vous raconte ma propre expérience un peu. Ma femme et moi, nous avons tout. Dieu nous a fait grandir. Dieu nous a donné tout. Des véhicules, maisons et tout. Mais quand ma femme est décédée, écoutez, quand elle est décédée, un jour, je suis venu, et le Saint-Esprit a dit, je vais te montrer quelque chose. Il faut le dire aux chrétiens chaque fois. J'étais là. Toutes les paires de chaussures étaient là. Les armoires étaient remplies de belles robes. Dieu me dit, à quoi ça sert maintenant tout ça? Elle avait des bijoux. Les bijoux étaient là. Elle avait plusieurs montres, parce que les gens, l'église, les gens nous aiment. Quand ils voyagent, ils nous amènent des montres. Elle avait toutes sortes de montres. Elle avait tout. Elle avait plein de choses qui étaient bien. C'est une femme qui aimait offrir aux gens. Elle aimait offrir aux gens. Mais malgré le fait qu'elle offre là, il y avait tout. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde tout ça maintenant. Ça sert à quoi? Dis à mon peuple d'apprendre à partager. Ce qu'ils gardent pour eux là, ils vont aller les laisser et ça ne les suivra pas. Frère, soyons la solution des gens. Je n'ai pas dit matériellement tout le temps. Soyons la solution des gens qui sont malades, qui viennent à l'église. Visitons-les une fois, même une fois, peut-être par semaine ou tous les 15 jours. Allons les voir. Soyons la solution des prisonniers. Soyons la solution des malades à l'hôpital. Ne laissez pas seulement les pasteurs partir pour prier pour les gens. Les pasteurs vont partir prier. Vous entendez qu'une sœur est malade, ça fait 3 semaines, elle n'est pas à l'église. Les pasteurs sont allés prier. Mais si même vous ne priez pas, allez-y avec des petites fleurs. Allez-y saluer cette sœur. Allez-y l'embrasser, lui dire que vous l'aimez. Allez-y simplement, soyez la solution de quelqu'un. Soyez la solution. Et vous allez voir, dès que vous êtes la solution, Dieu ouvre les portes pour que les autres soient votre solution. Ne vous asseyez pas pour dire personne ne m'aime. Parce que vous n'aimez pas quelqu'un. C'est pourquoi on ne vous aime pas. N'oubliez pas cela. Si vous dites personne ne m'aime, examinez votre vie. Vous allez voir que vous-même, vous n'aimez personne. En pratique, vous n'aimez personne. Vous ne donnez à personne. Vous voulez que simplement recevoir. L'église n'est pas là pour recevoir. La Bible dit qu'il n'y a plus de joie à donner. Donner l'amour. Donner la consolation. Donner des paroles, simplement. Donner un regard. Donner ces choses, frère. Il y a tellement d'occasions où nous pouvons être la solution des gens. Tellement d'occasions. Cette maman seule avec ses enfants, elle se bat. Mais vous la voyez, elle se bat. Oh, pauvre maman, pauvre femme. Non, un chrétien n'a pas le droit de dire à une femme qui est seule avec ses 3 enfants, elle se bat, pauvre maman. Mais vous êtes sa solution? Elle est couchée, la vaisselle est sale. Pourquoi vous ne partez pas avec vos enfants aller faire sa vaisselle? N'utilisez pas des phrases qui ne sont pas des phrases chrétiennes. Pauvre maman, elle souffre, cette maman. Et vous ne souffrez pas, mais vous n'oubliez pas, votre tour va arriver un jour. Si vous n'avez pas la solution, Dieu fermera les portes quand vous aurez besoin des autres. Soyez la solution, soyons pratiques. Ne soyons pas fermés sur nous-mêmes. Ce n'est pas le rôle des pasteurs seulement. C'est toute l'Église. Nous sommes les membres du corps. Et les membres prennent soin les uns des autres. Mes bras prennent soin de tout mon corps quand je me lave. Ce sont mes bras qui sont en fonction. Mais quand je dois marcher, ce ne sont pas mes bras. Ce sont mes pieds. Mes pieds disent à mes bras, tu nous as lavé, on est propre maintenant. Nous, on va marcher pour toi. Vous comprenez? Chacun des membres joue un rôle pour l'autre. C'est réciproque. La bouche joue un rôle. Le nez joue un rôle. Je veux voir, tout mon corps dit, ah, yeux, on a besoin de toi, tu es notre solution pour voir. Et ce sont les yeux qui vous regardent et les solutions. Je vais entendre, le corps dit, je vais entendre. Les oreilles sont la solution, donc, d'écoute du corps. Frère, nous sommes tellement spirituels que nous avons oublié les choses pratiques simples. Nous sommes trop spirituels. Trop spirituel. Et l'amour pratique soit la solution de quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin, sois ma solution. Et je vais être ta solution. Sois ma solution. Dans la famille, pour terminer, dans la famille, le père, il est la solution de sa femme et de ses enfants. Et la mère est la solution de son mari et de ses enfants. Chaque père doit être la solution de sa femme en tant que mari et solution de ses enfants en tant que père. Et chaque mère doit être la solution pour son mari. Je vous ai dit, le mariage, c'est cela. Je vous ai dit ça il y a 3 ou 4 ans. Le succès du mariage repose sur le M, la mort à soi. Si je suis mort à mes intérêts et je suis vivant pour les intérêts de mon mari ou de ma femme, le succès va commencer. Mais si je ne suis pas mort à mes propres intérêts, je veux que ma femme satisfasse seulement mes intérêts, je deviens un problème pour ma femme. Alors, bien-aimés frères et sœurs, les enfants doivent être des solutions pour les pères. Quelle solution? Ils ne peuvent rien donner, mais ils peuvent donner la joie à leur papa. Si le père dit ne fais pas ici, l'enfant dit maman, je ne ferai pas ça. Donc le père est dans la joie, la maman est dans la joie. Mais les enfants qui passent leur temps à faire pleurer leurs parents, ils vont pleurer un jour quand ils seront grands. Ils vont pleurer, par leurs enfants vont leur payer ça. C'est un processus. Ah oui, mais aujourd'hui, mes enfants ne sont pas là. Mais quand les enfants étaient petits, tu n'as pas pris soin d'eux. Tu ne leur as pas montré l'amour. Maintenant, tu as besoin que les enfants viennent. Tu as oublié, maman, ce que tu as sémé il y a 25 ans. Tu as oublié? Tout le temps, tu les bafouais, tu insultais ces enfants. Maintenant, les enfants ont grandi, ils sont partis. Et leur mémoire n'a pas, leur mémoire a encaissé des choses. Et maintenant, tu veux que tes enfants viennent. Mais tu as semé quelle graine en eux? Pas l'amour. Tu as semé l'ingratitude. Tu as semé le manque de reconnaissance. Bien-aimés frères, c'est ce message que je voulais vous laisser. Parce que vous avez de très bons pasteurs. Vous avez une bonne église. Je crois que vous avez reçu beaucoup d'enseignements. Mais il y a des choses simples. Simples. Simples que nous ne faisons pas. Parce que nous devenons trop spirituels. Et quand on devient trop spirituel, on n'est plus pratique. Et quand on n'est plus pratique, on vit sur les nuages. Et quand on vit sur les nuages, la réalité nous échappe. Et nous sommes surpris un jour de voir la réalité avec des larmes. Donc, sois la solution de quelqu'un. Regarde partout, dans ton bureau, sois la solution de quelqu'un. Au lycée, à l'université, sois la solution de quelqu'un. Tu es une solution, n'oublie pas. Dieu t'a créé pour être une solution. Ne sois pas un problème. Car si tu es un problème, les difficultés viennent. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.